Sixième partie de l'étude sur le retour au fondement. Revenir au fondement. On fait rapidement les rappels, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début. Donc on a fondé cette étude bien sûr sur la parole, et en particulier sur le livre de Néhémie. Et on utilisera aussi bientôt le livre des Actes des Apôtres. La première étude consistait à analyser ce qui s'était passé avec Néhémie lorsqu'il a appris que Jérusalem était en ruine. Et on a noté trois choses. La première, c'est qu'on ne doit pas être dans le déni par rapport aux situations qu'on traverse. Vous savez, le diable est très fort pour nous anesthésier. Hein. C'est spécialiste de l'anesthésie. Il n'enlève pas la douleur, mais on ne la ressent plus. Hein, quand on vous fait une anesthésie, ça ne vous guérit pas. Hein. Vous êtes d'accord? Vous ne sentez plus la douleur. Et le diable est très fort pour ça. Et pour anesthésier le péché dans notre vie, la douleur du péché. Et on ne doit pas être dans le déni. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et on doit le partager avec le Seigneur. Et on doit même faire ce qu'il faut. Merci beaucoup. Et la première chose qu'on doit faire, c'est prier. Tout commence par la prière. On y reviendra. Ensuite, être prêt à se mettre à l'œuvre au temps voulu par Dieu. Amen. Ensuite, on a vu qu'il fallait reconstruire sur les bons fondements. Après cette étape-là, il y a l'étape de la reconstruction. Et pour bien reconstruire, il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps de l'analyse devant Dieu, bien sûr. Ensuite, se mobiliser, se mettre à l'œuvre. Ça rejoint le troisième point de tout à l'heure. Où je disais aussi se laisser mobiliser. On voit que dans l'histoire de Néhémie, il y a Néhémie qui s'est mobilisé, et après il a su mobiliser, et les gens aussi ont accepté de se laisser mobiliser. Parce que vous pouvez essayer de mobiliser les gens s'ils ne veulent pas bouger. Hein. Donc on a tous en fait notre part à faire. Et puis on a vu aussi que un des fondements de la vie chrétienne, c'est d'avoir conscience du combat spirituel. Le combat spirituel, peut-être on aura l'occasion de faire une étude là-dessus un jour, ce serait intéressant. C'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que nous, quand on dit « je mène le combat spirituel », on est en train de compter sur nos propres forces. On dit « je vais jeûner, prier ». En fait, on fait une liste de choses que je vais faire, et c'est ce que je vais faire qui va faire que. Mais en fait, ce qu'on fait, ça ne fait rien du tout. Hein. Le combat spirituel nous amène à comprendre qu'on doit laisser le Seigneur faire, comprendre la part qu'il nous demande, et ensuite le laisser pour la part qui lui importe. Donc, quand vous voulez reconstruire, vous aurez à faire face à une réaction de l'ennemi. C'est ce qu'on a vu dans l'étude qui a suivi. Il y a une réaction de l'ennemi. Et on a vu les réponses qu'il faut lui donner. Et on a vu aussi ce que Dieu fait face à l'ennemi. Et relisez le livre de Néhémie si vous êtes là en train de dire « mais qu'est-ce qu'il nous raconte ?» Lisez le livre de Néhémie, tout ça est tiré de cette histoire. Puis on a vu que dans Néhémie 5, il y a eu ce temps aussi nécessaire après avoir reconstruit de la repentance et de considérer la grâce. Et puis la semaine dernière, on était arrivé au chapitre 8 de Néhémie, où on est revenu sur le fondement qui est la parole. Et on a vu trois choses. C'est que le peuple avait une réelle soif de la parole. Il était capable de rester des heures à écouter la parole. Juste écouter la parole qui était lue. Hein. Ce n'était même pas une prédication, vous savez, où de temps en temps, il y a un peu d'animation, une anecdote, ça nous maintient éveillés. Non, non, là, c'était l'écoute de la parole, strictement. Il y avait cette soif. Et cette soif, on a vu qu'elle était commune. Ce n'était pas une personne qui avait soif dans le peuple. C'était tout le peuple. Il dit, comme un seul homme, le peuple s'est levé. Et puis, dans cette soif, il y avait un grand respect. Un grand respect de la parole. La question qui était posée la semaine dernière, c'est est-ce que la parole a encore de l'effet ? Est-ce que la parole fait encore effet dans ta vie ? Parce que c'est ça qui est important. On peut dire la parole c'est le fondement, ouais ok, la parole c'est le fondement, si on s'arrête là, ça ne change rien. La question c'est est-ce que la parole, ce fondement, il a un effet dans ma vie ? Parce que les bienfaits sont extraordinaires quand la parole a un effet. Elles sont de deux ordres. D'abord, une transformation de notre être, de notre personnalité, de notre état d'esprit. Et puis la deuxième chose, une croissance claire affermi dans la foi. D'accord? Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un fondement de la vie chrétienne qui a été délaissé de plus en plus et qui est dû au, j'allais dire qui est dû au siècle d'aujourd'hui, mais non, parce que c'était pareil à l'époque du peuple d'Israël. J'ai intitulé le titre de ce message Totale soumission. Ce sera tiré de Néhémie 10, Totale soumission. On ne peut pas prétendre être chrétien et suivre le Seigneur si on n'est pas capable de se soumettre totalement. Et croyez-moi, c'est difficile, pas, premièrement parce que la nature humaine ne nous pousse pas à nous soumettre, et c'est difficile parce que nous sommes vraiment dans une société aujourd'hui où l'insoumission est visible partout, à tous les niveaux. Et même ceux qui devraient nous montrer l'exemple sont insoumis les uns aux autres. Il n'y a plus de respect de rien du tout. Alors ceux qui s'offusquent que les jeunes n'ont plus de respect sont capables de parler du président de la République comme s'ils parlaient de d'un vulgaire petit garçon qui se promène dans la cour et qui a fait une bêtise. Et on est dans cette logique, et qui n'est pas étonnante, puisque le Seigneur dit que tant que les hommes voudront s'en sortir sans lui, ben il en sera ainsi. Et ça ira de pire en pire. J'ai regardé, je pense que Jean-François Pujolas ça est contagieux, il a déteint sur moi, j'ai regardé la définition dans le dictionnaire. Dans le Larousse, de qu'est-ce que ça veut dire soumission? Et c'est intéressant parce que on dirait que des fois ils sont inspirés. Regardez ce que j'ai trouvé dans le Larousse. Action de mettre ou fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité, bon ça on sait, mais regardez ce qu'il a ajouté, contre laquelle on a lutté. Moi j'aurais pas dit ça dans la définition, j'aurais pas rajouté ça. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Moi, ça me rappelle moi. Je dois me soumettre envers celui contre qui j'ai lutté. On a tous lutté contre Dieu. On a tous lutté contre Dieu en ne voulant pas faire sa volonté. Même si on a grandi dans une famille chrétienne et qu'on le connaît depuis qu'on est tout petit. On doit se soumettre. Ça veut dire, Seigneur, j'arrête de lutter contre toi. J'arrête, j'arrête. Et puis, je l'ai écrit en rouge, privation d'indépendance qui en résulte. Ça fait mal. Tu ne seras plus indépendant, mon frère, ma sœur. C'est plus toi qui décides. Eh oui. C'est ça, la vie chrétienne, c'est ça. Et c'est des fondements. Si on n'applique pas ces fondements dans nos vies, on va passer à côté de plein de choses. Et par contre, on va connaître des choses difficiles. Parce que celui qui ne se soumet pas, eh ben, il va rencontrer des difficultés. Parce que le fait de se soumettre, on pense que c'est avilissant, que c'est réducteur pour nous. Mais en fait, quand on se soumet à Dieu, la Bible dit, soumets-toi et Dieu lui-même t'élèvera. Dieu ne veut pas qu'on se soumette pour nous écraser, il veut qu'on se soumette pour pouvoir nous élever. Mais tu ne pourras pas être élevé si tu ne te soumets pas. Cet état d'esprit entraîne obligatoirement un changement radical. Changement radical, un demi-tour. Les demi-tours, on le fait la conversion, conversion littéralement. On l'a déjà dit ici, ça signifie faire demi-tour. OK? Mais ce n'est pas parce qu'une fois dans notre vie, quand on a donné notre cœur à Jésus, on a fait demi-tour, que, on n'a pas besoin de faire quelques demi-tours aussi, de temps en temps, hein. Quand on prend un chemin d'égarement, on a besoin de faire demi-tour pour revenir sur le bon chemin. Oui? Ça ne vous arrive pas à vous. Moi, ça m'arrive. Je le disais à quelqu'un qui va se préparer pour le baptême cette semaine. Moi, j'ai soif de voir des gens qui se convertissent et tout le monde puisse dire, waouh! Il y a vraiment une différence entre avant sa conversion et après. Et je constate que de plus en plus, on voit des conversions, mais des conversions mi-figue, mi-raisin, on dirait. On ne voit pas vraiment le changement. On voit un léger changement, mais le changement, il est radical. Même si tu as grandi dans une famille chrétienne, souvent je vois les jeunes qui ont grandi, ouais, mais moi, mon témoignage, il est nul. Ouais, ben, j'ai suivi le Seigneur, ben, je suis toujours allé à l'église, puis après, je me suis converti. Ben, alors, qu'est-ce que je vais raconter ça aux gens? Ça n'a pas d'importance. Mais raconte un peu comment tu raisonnais dans ta tête, quelle personne tu étais et quelle personne tu es devenue. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et je peux vous dire que. Il a fallu que Seigneur il fasse un gros changement. C'est pas parce que j'avais entendu depuis que j'étais petit que même je craignais le Seigneur, hein, je croyais en lui, mais vraiment mon être intérieur il avait besoin d'un gros gros changement. Nous avons tous à changer au niveau de notre caractère, qu'on ait grandi dans une famille chrétienne ou pas, on a nos caractères et nos problématiques personnelles, et on a besoin de changements radicaux. Amen. Les gens sont impressionnés quand ils voient l'avant et l'après. Hein. Toutes les conversions spectaculaires, c'est les conversions. C'est pas le gars qui était ancien. Moi, j'ai vu des anciens drogués qui sont convertis, mais vous savez, après qu'ils soient convertis, hein, on regardait, c'était pas trop ça, quoi. Et j'ai vu des drogués qui sont convertis et vous voyez vraiment une autre personne. Et là, ça impressionne. Là, ça rend gloire à Dieu. Ça rend gloire à Dieu. Amen. La totale soumission se décline en trois mots qu'on va voir ce matin. Obéissance, sanctification, consécration. On aurait pu faire des études sur plusieurs dimanches sur chacun des thèmes. Mais je vais essayer d'aller au plus simple en suivant le chapitre 10 de Néhémie. Dans un des commentaires bibliques dont je me suis servi pour cette étude. Il est dit, on retrouve dans ce moment où le peuple de l'époque de Néhémie demande la parole et puis agit en fonction de ce qu'il a entendu, on retrouve comme dans tous les réveils, comme dans tous les réveils, c'est un facteur de réveil, hein, la soumission. On retrouve le retour à la parole, l'obéissance, le refus de toute compromission et le soutien matériel à l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on va voir ce matin en suivant le chapitre 10 de Néhémie. Alors, on va aller directement au verset 29, puisque le début du chapitre, c'est une énumération. Et il est dit ceci, parce que, en fait, celui qui a écrit le livre, il fait la liste de tous ceux qui étaient là pour faire un serment devant Dieu. Parce qu'après avoir entendu la parole, ils n'ont pas dit, ah, c'était chouette. On a bien aimé. Ils se sont réunis et maintenant on va faire un serment. On va faire une promesse à Dieu. Waouh! C'est pas pareil, hein, que de dire waouh, c'était super la prédication. C'est quand on sort de la prédication, on dit Seigneur, je prends un engagement devant toi. Et on va voir le premier point, l'obéissance. Obéissance, à chaque fois j'ai mis entre parenthèses, c'est la mise. En pratique, on verra qu'il y a d'autres mises. Mise en pratique, d'abord. J'écoute la parole, mais je la mets en pratique. Sinon, ça ne sert à rien. On le sait, je ne vais pas vous citer les textes qui en parlent. Donc, dans Néhémie chapitre 10, verset 29, après avoir fait le recensement de tout le peuple, eh bien, l'auteur nous dit ce qui se passe. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu. D'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Belle promesse, hein? On va se dire, ils sont un peu fous, hein, de promettre ça. Parce que là, c'est tout. Tous ensemble, on retrouve cette unité, cette communion du peuple. Tous ensemble. Il signe ce serment de marcher selon la loi de Dieu et de la mettre en pratique. C'est le signal d'un réveil, on l'a vu tout à l'heure. Il est précisé avec serment ou avec imprécation. Ça signifie que celui, littéralement, ça signifie que celui qui s'engage, il prononce contre lui-même une malédiction s'il ne tient pas son serment. C'est ça que ça veut dire, littéralement. Vous voyez à quel point ils sont capables de s'engager. L'engagement avec Dieu, c'est pas OK, je vais essayer, peut-être, on verra. Non, non, ça doit être ferme. Un engagement, ça doit être ferme. Le désir d'engagement ne reste pas d'ordre général, mais ils vont s'impliquer et ils vont s'appliquer à poser des promesses concrètes. Si tu veux un réveil dans ta vie, tu ne peux pas rester sans rien changer. Ne peux pas rester sans rien changer. Tu dois d'abord, premièrement, tu dois, on l'a vu, te pencher sur la parole, mais tu dois recevoir au travers de la parole. Recevoir ce que Dieu te demande de changer. Il ne s'agit pas de dire, ah, et Luc, il a dit qu'il fallait que je change, alors qu'est-ce que je vais changer? Ouais, changer ma coupe de cheveux. Non. Il faut changer ce que le Seigneur te demande de changer. Donc pour le savoir, il faut que tu le consultes. OK? Il faut que tu cherches sa face. Comme l'ont fait le peuple, ils sont restés des heures à écouter la parole. C'est après qu'ils ont su ce qu'ils devaient changer. Donc d'abord, tu dois recevoir de Dieu un ordre de changement. Quand tu l'as reçu, tu dois faire un serment. Seigneur, je te promets que je vais le faire. Eh? Eh oui. Seigneur, je te promets, je vais le faire. Ah oui, mais pasteur, si je promets que je ne le fais pas après, eh oui, bah t'es courageux ou t'es pas courageux? Trop facile de dire, oh, mais si tu tiens pas après, donc du coup, je ne le fais pas. Non, non, sois courageux. Je veux, Seigneur. Après, tu dois poser des actes concrets. Faut pas juste parler. Faut poser des actes concrets. OK? Si tu veux être délivré de quelque chose, ben, éloigne-toi de cette chose. Parce que si tu continues à côtoyer cette chose, ne demande pas à Dieu de te délivrer. Et ensuite seulement, c'est là que le Seigneur pourra agir. Et faire en toi même ce qui te paraît impossible. C'est important ce que je viens de dire, l'ordre, parce que souvent, on demande à Dieu, Seigneur, interviens, moi je ne peux pas, mais on n'a pas fait les étapes avant. Dieu ne force pas une porte. Il ne force pas la porte de ton cœur. Pour qu'il puisse agir pleinement en toi, il faut d'abord que tu reçoives son commandement, il faut que tu lui fasses des promesses, il faut que tu poses des actes. Et après, Dieu intervient. D'accord? Nous, on veut qu'il intervienne sans rien faire. Bah, j'ai entendu ce matin que par mes propres forces, je ne peux pas. Alors, Seigneur, c'est ton boulot. J'attends. Hein. Il y en a qui ont attendu longtemps comme ça. Une phrase pour vous encourager. J'aimerais que vous la compreniez bien, cette phrase. Elle va s'afficher. L'important avec Dieu. Ce n'est pas ce que tu peux faire, mais c'est ce que tu veux faire en obéissance à sa parole. Si tu manifestes, on ne trompe pas Dieu, hein. On ne trompe pas Dieu. Moi, quelqu'un peut me dire, pasteur, j'ai envie d'arrêter de fumer, et puis il n'a pas du tout envie. Mais il m'a dit, je veux arrêter, donc je le crois. Mais Dieu, lui, si on lui dit, je veux arrêter de fumer et que ce n'est pas vrai, il le sait. Mais si tu veux et que tu es sincère, si tu veux, que tu le dis à Dieu, je le veux, et tu reconnais que tu veux, mais tu n'es pas capable, Dieu va te rendre capable. Amen. Ne sois pas devant les problématiques en disant, mais ça, je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces, je ne peux pas. Oui, ben c'est bien, dis-le à Dieu. C'est très bien que tu lui dises à Dieu. C'est déjà un bon point. Parce que si tu crois que toi, tu peux, c'est mal parti. Mais si tu dis à Dieu, je ne peux pas, mais je veux, je veux, je veux. Vous avez entendu le témoignage de Brigitte quand elle s'est fait baptiser. On avait fini la préparation au baptême, on était sur le pas de la porte là. Elle me dit, Luc, je dois te dire quelque chose, c'est que je fume. Et moi, je ne le savais pas, puisqu'elle ne l'a jamais fait devant l'église ni rien. Moi, je ne suis pas avec elle toute la journée. Hein, donc. Elle me dit, et je lui ai dit, est-ce que tu veux être libérée? Elle me dit, oui, je le veux. Et apparemment, c'était sincère, puisque j'ai prié pour elle, et elle a été entièrement délivrée. Mais parce qu'elle voulait. Parce que maintenant, j'en ai la conviction. Elle le voulait. Et vous croyez que parce qu'on veut arrêter de fumer, on le fait? Il y en a beaucoup qui veulent arrêter de fumer. Mais quand on dit, moi, je peux pas, mais toi, Seigneur, tu peux. J'encourage, hein, s'il y en a qui ont des problèmes avec le tabac ou autre addiction, hein. Dites, reconnaissez au Seigneur, je ne peux pas, mais je veux, Seigneur. Et si vous voulez vraiment, c'est sûr, le Seigneur, il va le faire. Amen. Le deuxième point, la sanctification. Donc, cette fois, c'est la mise à part. C'est ce que signifie littéralement se sanctifier, se mettre à part. À part de quoi? Ben, à part du monde. À part de tout ce qui déplaît à Dieu. Néhémie chapitre 10, versets 30 à 31. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. De ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête, les peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat. On voit ici une prise de décision, une deuxième prise de décision après le serment. C'est le refus de tout compromis. C'est ça la sanctification en fait. Oui ou non? La sanctification, c'est il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de entre les deux là. Le premier engagement, donc, c'est de ne plus se mêler au peuple étranger. Ce n'est pas du racisme. La problématique des peuples étrangers à cette époque-là, c'est qu'ils avaient d'autres dieux. Et qu'en se mêlant avec eux, on faisait du syncrétisme. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est tant pis pour vous, fallait être là le mardi soir. Non. Le syncrétisme, c'est le mélange de toutes les religions. On dit tout est bon et on mélange tout ça. Et on fait un petit melting pot. Donc ils vont refuser ça. Ni dans un sens, ni dans un autre. C'est-à-dire on ne donnera pas nos enfants à marier avec eux et on ne prendra pas leurs enfants pour marier nos enfants. Et après, ils disent même on n'achètera pas ce qu'ils nous vendent. Avec Dieu, il n'y a pas de voie intermédiaire. Je pense qu'il faut que vous le compreniez. Et moi, je dois le comprendre aussi, parce qu'en fait, l'être humain, il ne peut pas s'empêcher de penser qu'entre deux possibilités, il y a quelque chose au milieu. Un truc, je ne vais pas dire une phrase, mais le en même temps. Ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de voie intermédiaire avec Dieu. Soit tu es avec lui, écoute bien ce que je dis ce matin. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Tu ne peux pas être neutre. Ah non, moi je suis ni avec Dieu, ni contre lui. Ou moi je suis athée. Non, si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre lui. Ça vous paraît peut-être dur ce que je dis, s'il y a des personnes qui viennent pour les premières fois, mais c'est une réalité spirituelle et moi je serais un menteur si je vous disais autre chose. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y en a que deux. Soit tu acceptes Dieu, soit tu le rejettes. C'est ce que le peuple a eu du mal à comprendre pendant toute son histoire. Si vous lisez attentivement l'histoire du peuple d'Israël, les prophètes, vous verrez que en même temps que le peuple continuait d'appliquer la loi, les rituels, ils allaient faire les sacrifices, tout ça, ils avaient mis sur les montagnes des idoles et ils allaient les voir en même temps. Qui continuait d'observer la loi. Et croyez-moi, quand vous lisez les prophètes qui dénoncent ça, vous voyez que Dieu n'est pas content. Hein. Ça ne lui plaît pas du tout. Mais la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Hein. Ils ont aussi fait des alliances, des pactes militaires que Dieu n'avait pas autorisés. Et peut-être pour t'en sortir, pour des choses ou d'autres dans la vie, tu es capable de faire des compromis en disant ben là, je suis obligé. Non, 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 non. Tu n'es jamais obligé. Tu dois accepter de perdre en ne faisant pas des compromis, en croyant et en étant sûr qu'au bout du compte, tu seras gagnant. En ayant fait des compromis, tu vas peut-être gagner au départ, mais dans le long terme, tu seras perdant. pas de compromis. Et on le voit, pas de mariage mixte aussi, j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Je vous invite d'ailleurs à lire le chapitre 13. On va passer au livre des Actes des Apôtres la prochaine fois. Mais dans le chapitre 13 de Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Néhémie est parti, il est rentré. Vous savez que Néhémie a été envoyé par le roi de Babylone. Et pendant un temps, il a été rappelé par le roi, donc il est parti. Et quand il revient, eh ben la catastrophe. Ils ont oublié tous leurs serments. Et ils ont recommencé à faire des histoires à dormir debout. Et donc, ben, il a fallu que Néhémie remette de l'ordre. Et là, c'est sévère même. Hein. Ils ont même été obligés de. Parce qu'entre-temps, ils avaient repris des femmes étrangères. Et ils ont été obligés de les abandonner. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Hein. Mais c'était la nécessité à ce moment-là. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18, on lit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est une idole. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, c'est pas l'église le temple, hein. Nous sommes le temple de Dieu vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, c'est ça la sanctification, la mise à part. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça vaut pas le coup de se séparer? Vous rendez compte ce qu'il est dit? Wow! Je serai votre père, vous serez mes fils, mes filles. Ça vaut le coup de se séparer du monde. La sanctification, c'est le renoncement. C'est le renoncement, en fait, à tout ce que la chair veut nous faire faire et nous propose. Dans Philippiens chapitre 3, verset 8, on voit le témoignage de l'apôtre Paul qui a été capable vraiment d'abandonner tout pour Dieu. Et il dit, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Si tu regardes les choses de ton passé avec envie, tu ne peux pas gagner Christ. Mais si tu regardes les choses de ton passé comme de la boue, alors tu gagnes Christ. N'aie pas de regret pour ce que tu as abandonné pour Dieu. Tu gagnes Christ. Jésus a dit, si quelqu'un, Matthieu 16, 24, 26, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Écoutez bien le raisonnement derrière. Moi, j'aime bien les raisonnements de Jésus. Ils sont simples. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Nous, l'être humain, on voit pas plus loin que le bout de son nez. On ne voit pas l'avenir. Et donc, il y a tellement de choses qui nous paraissent profitables à court terme. Et on ne voit pas les conséquences à long terme. Et donc, on dit, mais oui, mais la Bible se trompe. Regarde, j'ai fait ça et ah, je suis bien. On en reparle quelques années après. Catastrophe. Et parfois, quand je renonce à quelque chose, je dis, mais si je renonce à ça, mais c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que dans le court terme, ça va être compliqué. Mais dans le long terme, tu vas gagner. Dieu va honorer. Amen. Et de toute façon, il dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Parce que le plus important, c'est quoi? C'est ton salut, ton âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. À un moment donné, on va faire le bilan. Ce qui est important, c'est ton salut. Et si tu dois tout perdre sur cette terre et être sauvé, tu as gagné. Si tu veux tout garder sur cette terre et que tu te retrouves en enfer, là, tu n'as rien gagné du tout. Tu as tout perdu. Et donc, je crois que c'est des choses auxquelles le Seigneur veut nous faire réfléchir. On termine avec le dernier point, qui est la consécration, où je vais être plus court, mais ça m'a étonné de voir que dans ce retour au Seigneur, eh bien, il y a cette dimension matérielle, la dimension de l'engagement matériel. La consécration, bien sûr, c'est plus vaste que l'engagement matériel. La consécration, c'est le don de sa vie. C'est-à-dire, Seigneur, je te donne tout. On le chante, je m'abandonne, je te donne tout. On le chante, après, on le fait un peu moins. On essaye de se rapprocher de ce qu'on chante. Personne n'est parfait. On doit se rapprocher. C'est pas on essaye, on doit le faire. On doit se rapprocher. Et là, ici, Néhémie, il est écrit au chapitre 10, verset 32, il est écrit « Nous nous imposâmes aussi » C'est la troisième chose qui s'impose après le serment, après ce que nous venons de voir. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de sicle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Alors un tiers de sicle, c'est compliqué à vous expliquer, c'était du poids, c'était de l'or ou de l'argent, mais déterminé en poids, ce n'était pas des pièces d'argent ou des pièces d'or, c'était en poids. Donc on ne sait pas, ce n'est pas précisé si c'est de l'argent ou de l'or. En tous les cas, c'est des choses qui devaient être faites, et normalement même c'est un demi-cycle, hein. Et là, c'est un tiers de cycle. Bon, il y avait quand même un retour par année, donc chaque année pour le service de la maison de notre Dieu. Pourquoi ? Pour l'œuvre de Dieu. Quand on dit pour le service de la maison de Dieu, c'était toute l'organisation du temple. Si vous lisez les versets qui suivent, ça explique à quoi ça sert. Parce qu'il fallait faire fonctionner tout le service du temple avec les Lévites qui avaient chacun leur fonction, etc. Et donc, il fallait que le peuple participe parce que les Lévites, ils n'avaient aucune terre. Ils n'avaient pas de travail à part travailler pour le Seigneur. Et c'est le peuple qui pourvoyait leurs besoins. Donc ce troisième engagement, c'est de donner à nouveau pour la maison de Dieu. Parce que les peuples ne donnaient plus la dîme. C'est ça le problème. Le peuple ne donnait plus la dîme, il ne donnait pas plus une part de ses revenus à Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important. On a l'impression que ce n'est pas très important. Mais c'est très important de consacrer à Dieu ce qu'il nous a donné. Parce que ce qu'on reçoit, ce qu'on possède, ne nous appartient pas. Tout nous est donné par Dieu. Si tu as une maison, remercie Dieu. C'est lui qui te l'a donné. Si tu as un travail, remercie Dieu. C'est lui qui te l'a donné. Et si on considère tout cela, on n'aura pas du mal à donner parce qu'on rend en fait. On ne donne pas, on rend. Au verset 39, il est dit « C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. » Moi, je dirais plus largement l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. La consécration, c'est d'abord, je l'ai dit, celle de sa vie, mais dans l'ancienne alliance, il y avait une importance donnée à la consécration matérielle. Et ce n'est pas étonnant, et cette consécration matérielle, elle existe toujours dans la nouvelle alliance, d'une manière différente. Puisque dans l'ancienne alliance, c'était un impôt, c'est quelque chose qu'on devait, alors que là, ils vont aussi pas, si vous lisez un peu plus loin, ils vont parler aussi de la dîme de tous les revenus, c'est-à-dire des récoltes, ils devaient donner, etc., des troupeaux, ils devaient donner une partie. Donc tout ça est écrit, j'ai pas tout détaillé. Mais dans la nouvelle alliance, il y a cet encouragement par les apôtres à donner, et même par Jésus, lorsqu'il voit la veuve qui donne ces deux sous, là, ces deux pièces, hein, Jésus encourage à donner non pas de notre superflu, mais même de notre nécessaire à l'œuvre de Dieu. Et cette consécration matérielle, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle dénote d'un état d'esprit. Ce que tu donnes à Dieu matériellement dénote de ton état d'esprit. Si tu donnes peu, ça veut dire quelque chose. Si tu donnes beaucoup, ça veut aussi dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le fait de donner ne fera pas de vous quelqu'un de riche. Contrairement à certaines doctrines qui circulent, donner à Dieu et vous allez devenir riche. Il n'est pas écrit ça dans la Bible. Ça peut. Mais ça peut ne pas être le cas non plus. Tu deviendras riche spirituellement, ça oui. Mais riche financièrement, j'en sais rien. Ça, c'est l'affaire de Dieu. C'est important. Mais ça dénote un état d'esprit. La nouvelle alliance nous laisse libres par rapport à ça. Mais comme je le dis toujours, quand je fais allusion à ça, elle nous laisse libres de donner plus que 10%. Parce que souvent, les gens viennent vous voir en disant: Ah, mais on n'est pas obligé de donner 10%, mais on n'est plus sous la loi. Et vous savez pourquoi ils vous disent ça? Parce qu'ils veulent donner moins. Mais aujourd'hui, on peut donner plus. Et suivant comment le Seigneur t'a béni, bien sûr, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui ne peuvent pas donner 10%. Et le Seigneur le comprend. Les gens qui ont des tout petits revenus ne peuvent pas donner 10% de leurs revenus, ce n'est pas possible. Mais donne ce que le Seigneur met sur ton cœur, que ça corresponde à ton état d'esprit. Et toi qui as été largement béni par le Seigneur, si tu donnes 10%, excuse-moi, hein, mais tu es loin de ce que le Seigneur peut attendre de toi. Quand Dieu t'a béni financièrement, ce n'est pas 10% que tu dois donner, c'est beaucoup plus. Dans le prophète Malachie, au chapitre 3, verset 10, il est dit ceci: Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Le fait de débloquer, vous savez, le fait d'être libre et d'être généreux montre qu'on n'est pas attaché aux choses matérielles. Et le matérialisme, c'est un fléau en Occident. Un grand évangéliste, Luis Palau, que vous connaissez peut-être, qui est argentin, avait été interviewé une fois, alors qu'il faisait une mission en Europe, hein, et il disait: Comment vous expliquez, quand vous faites des missions en Argentine, tout ça, il y a des guérisons, des miracles, des choses extraordinaires qui se passent, et en Europe, c'est beaucoup plus mitigé. Et lui, il avait donné la raison. Il avait dit: C'est parce qu'en Europe, les gens sont matérialistes. Ils ne dépendent pas de Dieu, ils dépendent de leur argent. Quand j'avais entendu ça, j'ai fait ouf. Mais je me suis dit, il a raison. Il a raison. Hein. Aller dans les endroits où il n'y a rien, il n'y a pas d'hôpitaux, etc. Les gens, ils comptent à 100% sur Dieu. Hein. Quand ils sont malades, nous, on a tout. On a tout. On a tout. Et on se plaint. Entre parenthèses. La véritable consécration, c'est de donner à Dieu en premier. Donner à Dieu en premier. Et être sûr que si on le fait, il va pourvoir à nos besoins. Il sera fidèle. Jésus dit, je vous invite à lire tout le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Et à la fin du chapitre 6, il dit: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est les choses matérielles. Il en parle avant. La nourriture, le vêtement. Toutes ces choses, ça vous sera donné. Dieu est fidèle. Mais le premier, c'est Dieu. C'est pas je donne à Dieu ce qui me reste. Et souvent, à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose. C'est je donne à Dieu ça. Et après, je me débrouille pour mes affaires. Mais ça, c'est pour Dieu. Et ça ne bouge pas. C'est ça, quelle que soit la somme. Même si c'est une petite somme, moi, je vous encourage à être fidèle. Dire ça, c'est pour Dieu. Et combien j'ai entendu de témoignages, combien on a vécu avec Valérie, des expériences. On n'a pas touché à ce qui était à Dieu. Ça nous mettait en difficulté, mais Dieu a pourvu. À chaque fois. Et j'ai entendu des tas de témoignages aussi de personnes qui racontent des histoires comme ça, extraordinaires. Je me souviens de pasteur Jérémy Gadrois, qui, était, à un moment donné, il racontait que, je ne sais plus exactement, mais qu'ils n'avaient plus rien avec sa femme et tout ça. Ils ont dit: bah, tant pis, on va donner. On donne, c'est notre dîme, on doit la donner. Ils n'avaient plus rien avec des enfants et tout, hein, quand même. Ils ont dit: on le donne. Et puis, il y a quelqu'un qui est passé, qui leur a donné de l'argent. Plus, beaucoup plus que ce qu'ils avaient donné. Amen. Seigneur, il est grand. Il est grand, il est puissant. Je me souviens, je termine sur ce point avec ça, je me souviens de. Je l'ai raconté ici peut-être déjà, mais comme il y a des personnes qui sont ajoutées depuis, je veux raconter ce témoignage d'une année. Quand j'étais jeune, j'étais étudiant, donc je travaillais tous les étés en colo. Et je consacrais tout mon été, mes 2 mois de vacances, à servir le Seigneur dans les colos. Et puis une année, j'ai dit, ouais, mais quand même, il faut que je me paye le permis, hein. Et à l'époque, ce n'était pas les parents qui nous payaient le permis, hein. Il fallait qu'on se le paye nous. Donc, eh ben, j'ai commencé à chercher un travail. Et puis j'ai trouvé un travail. Et c'était un chrétien de l'église qui m'avait trouvé ce travail d'ailleurs. Et à partir du moment où il m'a dit c'est bon, t'es pris et tout ça, j'ai été pris dans mon cœur, mais d'angoisse, j'étais pas bien. Et le Seigneur m'a montré, tu vas pas me servir pour aller gagner de l'argent. Et j'ai demandé pardon à Dieu, je suis allé voir mon frère à l'église, je lui ai dit, bah, écoute, je cherchais quelqu'un d'autre, je ne viendrai pas. Je vais aller servir le Seigneur. Je suis parti faire ma colo. Comme vous le savez, dans ma vie, j'ai fait plus de 30 ans, enfin 30 étés avec des colos. Donc, je pourrais vous raconter des expériences. Mais la seule fois où une chose comme ça m'est arrivée, c'est cette année-là. Donc, j'ai refusé le travail pour me payer le permis. Je suis allé à la colo. Vers la fin de la colo, il y a une mamie du perso. Elle vient me voir et me dit, Luc, tiens, le Seigneur, il m'a dit de te donner ça, une enveloppe. Et moi, je dis, ah non, non, jamais de la vie, je veux pas prendre ça. Et ça, je la connaissais. En plus, c'était quelqu'un qui n'avait pas trop les moyens. Je dis, non, non. Elle a posé sur une fenêtre, elle a dit, Dieu m'a dit de te la donner. Moi, ça reste là, moi, je ne la reprends pas. C'est plus à moi. Donc, bon, je l'ai pris. À l'époque, dedans, il y avait 1000 francs. 1000 francs. Et je suis allé passer mon permis. La chance que j'avais, c'est que l'ex-mari d'une de mes tantes, avec qui on avait encore des contacts, avait une auto-école. Je suis allé passer le permis chez elle. Et chez cette personne, et il me l'a fait payer 600 euros. 600 francs, pardon. 600 francs. J'ai eu 1000 francs, ça m'a coûté 600 francs. Et même le Seigneur a été encore plus meilleur encore, dans le sens où avant d'aller passer mon permis, dans la région, j'avais un autre oncle qui avait une propriété viticole et je suis allé faire les vendanges chez lui, mais j'y suis allé, je lui ai dit, tonton, je viens t'aider, je ne veux pas que tu me payes. Mais à la fin, il m'a donné aussi de l'argent. Il m'a donné 1200 euros. Donc j'ai eu 1800 euros et le permis m'a coûté 3 fois moins. Voyez francs, pardon. Le Seigneur, ah ouais, c'est dur de retourner en arrière là. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'époque, 1800 francs, c'était beaucoup. Pour un étudiant, en tous les cas, c'était énorme. Et moi, je veux bénir le Seigneur. Moi, j'étais loin de me douter. Moi, j'étais tellement mal, j'ai juste obéi à Dieu. Et je n'ai pas fait en me disant, oh, mais Dieu va me donner plus, tout ça. Non, j'ai juste dit, bah, Seigneur, tu me dis. Et c'est incroyable. Et après, j'ai refait des colos en étant étudiant, ne gagnant pas d'argent. Plus jamais on m'a reproposé, on m'a jamais donné de l'argent. Mais cette année-là, il y avait eu un défi. Et Seigneur, il a dit, t'inquiète. Il m'a montré, t'inquiète. C'est moi qui gère. Et je vous encourage vraiment à lui faire confiance. Amen. Je conclus avec ce rappel des 3 choses que nous avons vues ce matin. Obéissance, sanctification, consécration. Tu peux avancer, s'il te plaît, Johan? Conclusion et à la diapo ensuite. Obéissance, sanctification, consécration. Et je veux lire un dernier texte et on va prier. 1 Pierre chapitre 1, versets 13 à 16. C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc, il est parlé de l'obéissance, il est parlé de la sanctification quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous le dites avec moi? Vous serez saints car je suis saint. Amen. C'est extraordinaire, hein, comme la parole de Dieu nous encourage. Vous serez saints car je suis saint. Et donc, quand on s'est approché dans la louange de ce Dieu saint, croyez qu'à chaque fois que vous vous approchez de sa sainteté, sa sainteté rayonne sur vous. Et vous êtes, comme le dit l'apôtre Paul, transformés de gloire en gloire. Amen. C'est le seul moyen. Ce n'est pas vos efforts. Ce n'est pas le jeûne et la prière. Ce n'est pas l'offrande, la dîme qui change votre caractère. c'est quand votre caractère sera changé que vous donnerez la dîme comme il faut. C'est pas pareil. Mais quand vous vous approchez de Dieu, si le jeûne et la prière, c'est pour s'approcher de Dieu, oui. Si le jeûne et la prière, c'est pour dire je vais obtenir quelque chose, ça ne va rien changer dans votre caractère. Peut-être que vous allez obtenir la chose, mais ça ne changera pas votre être en profondeur. Mais si vous jeûnez et priez pour que Dieu, pour être dans la présence de Dieu, chercher sa face, oui, là oui, ça va avoir de l'effet. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble et remercier le Seigneur de ce qu'il nous appelle? Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas de place pour la médiocrité. Avec Dieu, c'est l'excellence. Avec Dieu, c'est le haut niveau. On va avoir la chance d'avoir les Jeux Olympiques dans notre pays. Vous croyez que les gens qui vont participer aux Jeux Olympiques dans quelques mois, ils sont en train de se tourner les pouces là en ce moment? Est-ce qu'ils ne renoncent pas? Est-ce qu'ils ne renoncent pas à des tas de choses? Régime alimentaire, interdiction de sortie, les footings, les choses, la musculation, vous savez, il y a des choses qui font qui sont agréables, il y a des choses qui ne sont pas agréables du tout. Hein. Une grande discipline, parce qu'ils ont un objectif, être au haut niveau. Et nous, comme le dit l'apôtre Paul, qui courons non pas pour une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible, est-ce qu'on ne ferait pas plus que ces athlètes de haut niveau? Dans le renoncement, dans la consécration, dans la sanctification, dans l'investissement matériel, parce que je peux vous dire aussi que si les footballeurs, l'argent tombe du ciel, pour certains autres sports, pour arriver à trouver les finances pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques, c'est un vrai parcours du combattant. Hein. Et ils y mettent de leur argent. Hein. Et ils empruntent, et ils sont capables de faire des choses pour des choses aussi futiles. Qu'on soit capable de faire ça pour l'œuvre de Dieu. Amen. Pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Je la laisse maintenant reposer dans les cœurs. Et je veux prier que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Je sais qu'il a déjà commencé en même temps que je prêchais à œuvrer dans les cœurs. Et je prie que cela continue et qu'on puisse voir du changement. Seigneur, on ne veut pas juste dire on veut t'obéir. On veut poser des actes concrets. Et on veut se confier en toi, être confiant que tu vas nous aider à faire ce qui nous paraît être impossible. Que ton nom en soit glorifié. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Poser des actes concrets, c'est important. Et je vous le demande, et surtout ne me répondez pas. Mais par rapport à la prédication de la semaine dernière sur le retour à la parole, j'ai été tellement ému de voir l'Église se lever comme un seul homme.